RFI, 6h44 en temps universel. Et la suite d'RFI Matin, c'est cette reprise de l'offensive israélienne dans la bande de Gaza. Plus de 500 Palestiniens tués depuis mardi et la menace d'une annexion brandie hier par le ministre israélien de la Défense. La guerre qui reprend donc, alors qu'Israël empêche depuis début mars l'entrée de l'aide humanitaire et que les rares hôpitaux de l'enclave encore en service menacent à nouveau d'être saturés. Plus de la moitié de ces hôpitaux ont été détruits depuis le début de la guerre. Et on parle ce matin d'une initiative pour reconstruire l'un d'entre eux, un militant britannico-palestinien a mis au point un soda, le Gaza Cola, pour récolter des fonds et boycotter d'autres marques. Reportage à Londres, Emeline Vin.
En plein cœur de Londres, le café Iba offre une bulle de Palestine. Avec ses keffiyehs et ses drapeaux au mur, attablé devant une salade arabe, Hamza sirote un soda un peu particulier.
Gaza Cola is always welcome. It's good. It tasted good.
Gaza Cola, ça fait toujours du bien, c'est bon, c'est rafraîchissant. Je crois qu'on a le pouvoir d'agir collectivement en choisissant ce qu'on consomme et ce qu'on refuse de consommer.
À l'origine de Gaza Cola, canette rouge inspirée d'une autre célèbre marque, il y a Osama Kachou, réalisateur originaire de Cisjordanie. Depuis août, il a vendu 1,5 million de canettes, une manière de boycotter les géants du soda.
Coca-Cola is... Les grandes entreprises bénéficient toujours de la guerre. Celles qui font déjà beaucoup d'argent, Coca-Cola, possède une immense usine dans les territoires palestiniens illégalement occupés. C'est une pratique illégale. Et eux, ils font de l'argent. Tant qu'ils n'en perdront pas, ils ne changeront rien. Gaza Cola vient de là, une sorte de David contre Goliath. Nous n'allons pas tout changer, mais nous voulons créer de la réflexion.
La grande marque visée admet représente en Palestine depuis 1998 et assure employer un petit millier de Palestiniens. Il aura fallu 9 mois pour trouver des partenaires. Aujourd'hui, tous les bénéfices sont reversés à Gaza et un projet en particulier, la reconstruction de l'hôpital d'Al-Karama, au nord du territoire, détruit en août dernier.
Cet hôpital en particulier est très important car au moins 300 000 personnes en dépendent. Et c'est un petit établissement, donc c'est réalisable. Autour du site, nous avons installé des tentes où les patients sont soignés. Nous finançons ces tentes. Nous sponsorisons le salaire des soignants qui restent, environ 200 euros par mois. Nous soignons environ 1000 personnes chaque jour.
Ce soir-là, Osama Kachou organisait une conférence avec le docteur Mohamed Tahir, revenu de 2 missions médicales à Gaza. Le chirurgien explique l'importance des initiatives comme Gaza Cola.
Sur le terrain, ce sont des familles détruites, de nombreux patients avec des blessures catastrophiques, handicapantes, et des semaines, voire des années de douleurs à venir. Maintenant qu'on se dirige vers la gestion d'affections chroniques, il faut former, entraîner, reconstruire. Si vous ne pouvez pas venir donner de votre temps, alors donnez de votre argent.
Aucun grand distributeur britannique n'a pour l'instant accepté de commercialiser le soda, qui devrait arriver en France en mars dans certains restaurants. Emeline Van Londres, RFI.
Reportage à retrouver sur RFI.fr et notre application Pure Radio.
RFI Matin.
Et un œil ce matin vers le Niger à la une par 2 fois ces derniers jours. Le 14 mars, Niamey a expulsé 3 dirigeants chinois de sociétés pétrolières. Le 17 mars, le pays a décidé de rompre avec la francophonie, suivi dans la foulée par le Mali et le Burkina Faso. Quels sont les dessous de ces choix politiques et de cette offensive souverainiste de la junte au pouvoir au Niger? L'économiste français Olivier Vallée a été conseiller technique au Sahel et notamment à Niamey où il a gardé des contacts. Il est notre grand invité Afrique ce matin avec Christophe Boisbouvier.
Olivier Vallée, bonjour.
Bonjour.
Pour expliquer leur rupture avec la francophonie, les 3 pays de l'AES affirment que l'OIF est un instrument politique téléguidé, sous-entendu par la France. Pourquoi ont-ils attendu jusqu'à 2025 pour rompre ?
Ce qui s'est passé, c'est que les 3 pays de l'AES ont essayé, via l'OIF, de rétablir des relations plus paisibles avec Paris et qu'à chaque fois, ça a été, en particulier vis-à-vis du Niger, ça a été un refus fut catégorique. Deuxième facteur, c'est qu'en grande partie sous l'influence de l'Élysée, l'OIF a été peu à peu rempli à un certain nombre de postes de franco-sahéliens. Et les franco-sahéliens qui étaient dans l'OIF ont plutôt milité ouvertement contre les pays de l'AES.
Est-ce que la réintégration dans l'OIF de la Guinée-Conakry, c'était en octobre dernier, a provoqué un mécontentement chez les pays de l'AES ?
Non, pas vraiment. C'était simplement la manifestation de plus qui tendait à prouver que les proscrits de la francophonie n'étaient pas les ennemis de la démocratie, mais plus spécialement ces trois pays de l'AES.
Le Niger est aussi dans une relation exigeante avec son partenaire chinois, puisqu'il vient d'expulser trois responsables chinois de la gestion de sa filière pétrolière. Pourquoi cette mesure d'une grande fermeté ?
En matière pétrolière, les grands accords sur l'ensemble de la filière, que ce soit le pipe, qui est géré par une filiale sino-béninoise WAPCO, la raffinerie Soraz, qui est un zinder, qui est une filiale sino-nigérienne, et l'extraction même du pétrole qui est assurée par la compagnie chinoise CNPC. Ce sont des accords qui ont été passés principalement par l'administration Issoufou et pour ce qui est de WAPCO, par un ministre du pétrole qui s'appelle Bazoum, qui va devenir ensuite, on le sait, président. Donc, je crois qu'il y avait un litige ou plusieurs litiges sur tous les contrats qui ont été signés pendant l'administration Issoufou et l'administration Bazoum, et que des incidents récents lors de la convocation de dirigeants chinois des filiales nigériennes auprès du ministre du pétrole, ça a été d'une certaine façon la goutte de pétrole qui a fait déborder le baril et qui a poussé le gouvernement du Niger à cette décision d'expulsion dans un cadre juridique. Maintenant, le dossier est confié au ministre de la Justice qui va demander plusieurs audits et en particulier un audit sur le fonctionnement de WAPCO.
Donc en fait, c'est pas une mesure individuelle contre ces trois cadres chinois, c'est une mesure contre l'État chinois qui ne verse pas assez de royalties et qui ne paye pas assez d'impôts.
C'est certainement un des éléments qui devrait apparaître à la suite des audits et de la révision des contrats. Et on est un petit peu dans le cadre de la reconquête du contrôle des ressources minières qu'on observe dans les autres pays de l'AES. Ce qui est plus particulier dans le cas nigérien, c'est que toutes les clauses des contrats passés avec les administrations précédentes sont restées secrètes et n'ont pas été transmises au gouvernement actuel du Niger. Donc l'identification du manque à gagner ou du déficit fiscal qu'aurait subi le Niger n'est pas encore établi. Et donc, ces trois responsables chinois n'ont pas fait l'objet d'emprisonnement, de menaces, de rétention. Ils ont été expulsés par une décision motivée.
Le Niger a trop besoin de la Chine pour pouvoir jeter en prison des ressortissants chinois.
Je pense qu'il y a deux choses. Il n'est pas nécessaire pour le Niger d'arriver à une relation aussi tendue avec la Chine qu'avec la France, et que deuxièmement, la prison, en particulier pour des ressortissants étrangers, ne fait pas partie des habitudes du Niger.
Olivier Vallée, merci.
Olivier Vallée, ancien conseiller technique au Sahel, invité RFI Matin de Christophe Boisbouvier. Et dans notre reportage Afrique, le deuxième volet de notre série de reportages à Berberati, dans la troisième plus grande ville de Centrafrique, dans le sud-ouest du pays, avec la colère des habitants, des locaux, dépassés par la vétusté des principales artères de la ville et de ses environs. Elle rend la circulation difficile et ralentit l'activité. Dans ce contexte, certains habitants, notamment des jeunes, ont mis en place des initiatives communautaires pour reconstruire eux-mêmes certaines routes. Reportage Rolf-Steph Domielleux.
Au volant de sa voiture, Albert affronte les voies impraticables qui traversent le quartier de Djambala. Pendant cette saison des pluies, le ravin s'est agrandi et la mobilité est pénible. Pris au piège dans une mare, cet homme de 36 ans joue avec son volant pour éviter de tomber dans les ravins.
Il n'y a-t-il pas si La route est impraticable à cause de l'érosion des nids de poules et du manque d'entretien. Je suis en train de m'embourber et il va falloir faire demi-tour. À chaque saison des pluies, les trous et les ravins se développent. C'est très pénible.
Le taxi bus de Mahamat, lui, est en route pour Kenzo, ville frontalière avec le Cameroun. Mais un camion s'est renversé dans les ravins, bloquant la circulation depuis quelques minutes. Alors que les badauds tentent de faire sortir les rescapés, Mahamat craint également pour son sort.
C'est un casse-tête pour circuler dans cette ville. Il n'y a pas de rénovation et l'érosion abîme toutes les routes. Il faudra plusieurs jours pour retirer le grumier qui s'est renversé. Nous sommes tous coincés à cause de ce passage pourri.
Dans ce calvaire, des jeunes volontaires de la ville tentent de débloquer la situation. On les retrouve dans certains quartiers de Berberati, armés de pelles, de pioches et de bouées. Ici, au quartier de Difolo, une dizaine de jeunes sont en activité. Ils n'ont pas de gants, de casques et de bottes. Jeans déchirés, t-shirt noir démembré, Gabriel veut changer les choses.
La route n'a pas été réhabilitée depuis plusieurs décennies. Nous avons bouché quelques trous avec de la latérite pour alléger la souffrance des usagers.
À moto, à vélo, derrière un volant ou à pied, les 100 000 habitants de Berberati vivent le calvaire. Plusieurs quartiers sont coupés les uns des autres selon Yalis, membre de l'équipe.
À certains endroits, nous remplissons des sacs de sable que nous mettons dans les ravins pour empêcher leur progression. Certaines personnes de bonne volonté nous donnent des cadeaux pour nous encourager. Mais on n'oblige personne, c'est un acte volontaire.
L'axe Berberati-Kenzo est l'une des voies de ravitaillement de la République centrafricaine depuis le Cameroun. Selon une source à la direction des travaux publics de la ville, des études sont en cours afin de lancer les travaux de réhabilitation de ces routes dans les prochains mois. Rolf Esteve Donaleux, de retour de Berberati, RFI.
Et retour à Berberati en Centrafrique, demain même heure pour le troisième épisode de notre série de reportages Afrique sur place. Bienvenue sur la Radio du Monde, si vous nous rejoignez bientôt, 7h en temps universel, et l'info continue sur la Radio du Monde.
RFI à Pointe-Noire, 93.2 FM. Pointe-au-Sel, 103.2 FM.
L'actualité des médias, comme chaque samedi. Bonjour Amaury de Rochegonde.
Bonjour Julien.
Nous revenons avec vous aujourd'hui sur la décision de Donald Trump de suspendre les médias publics extérieurs américains en mettant en congé forcé les personnels de la US Agency for Global Media.
Oui, on aimerait presque penser qu'il y a une forme de logique avec les négociations Trump-Poutine sur l'Ukraine, la suppression de Radio Free Europe, de Radio Liberty ou de Voice of America pourrait être des gages donnés à la Russie quand on se souvient du rôle joué par ces médias qui émettaient en ukrainien pendant la révolution orange de 2004 à Kiev. Des médias qui ont joué un rôle de soutien à la démocratie en couvrant les manifestations et en apportant des informations extérieures à la propagande gouvernementale. Mais en fait, non, ce n'est sans doute pas la première motivation de ce décret. Elon Musk, responsable du département de l'efficacité gouvernementale, l'avait annoncé sur X. Il faut fermer Voice of America et Radio Free Europe, Radio Liberty. Pourquoi ? À cause de la bureaucratie fédérale inutile et de la propagande radicale, selon Trump, qu'il véhiculerait.
Mais n'est-ce pas d'abord pour l'Amérique un outil de soft power ?
Ça, c'est ce qu'on pensait avant, quand la Maison-Blanche se souvenait que cette agence de médias mondiaux touche une audience record de 427 millions de personnes par semaine, que Voice of America s'exprime en 47 langues et que forcément, il importe de défendre des valeurs démocratiques face à la Russie, mais aussi la Chine, Cuba et l'Iran. Le démantèlement de l'agence, qui a dénoncé son bail de location cette semaine, implique aussi la suppression de Radio Free Asia, de la radio-télévision anticastriste Marti ou encore de MBN, Middle East Broadcasting Networks. L'administration Trump veut réduire les dépenses publiques, mais aussi avoir les mains libres pour signer des accords bilatéraux avec des pays autoritaires, faire triompher les lois du business sur les droits humains, et ça passait par une sorte de reset, de réinitialisation des médias extérieurs en rompant avec le passé et donc avec leurs journalistes.
Et des médias applaudissent pourtant ces décisions, Amaury.
Oui, c'est le cas du Global Times, le quotidien soutenu par l'État chinois, ou de Sputnik, le média russe. Tous deux se réjouissent de cet arrêt de médias publics qu'ils qualifient dans un cas d'usine à mensonges et dans l'autre de producteur de fausses informations, notamment lors du massacre de Boutcha, pourtant internationalement documenté en Ukraine. L'agence fédérale américaine de médias a aussi renoncé à ses abonnements à l'AFP, AP et Reuters. Et on sent bien que c'est un autre narratif qui se prépare. La fin d'une information équilibrée et vérifiée et d'un rempart contre la désinformation, comme l'ont exprimé conjointement la Deutsche Welle et France Média Monde.
Amaury de Rochegonde, merci beaucoup.
À quoi ça ressemble quand des chercheurs trouvent ? À moi. Grâce à la recherche, je vis avec le VIH. Mais je dois vivre avec un traitement à vie. Une santé plus fragile. Des discriminations. On vit, oui, mais on n'est pas guéri. Grâce à la recherche, on peut vivre avec le VIH. En aidant la recherche, on pourra vivre sans. Faites un don à SIDAction sur sidaction.org.
Musique du monde, Laurent Salloir.
L'ensemble Chakam est l'invité de la session live. Chakam est un trio à cordes servi par l'iranienne Sogol Mirzayi Ketotar. C'est un luth avec un corps en forme de double cœur. La palestinienne Christine Zayed au kanoun, ça c'est un sitar compos sur les genoux. Et la française Marie-Suzanne Deloy à la viole de gambe, un proto-violoncelle très en vogue au 15e siècle.
Musique du monde, Laurent Salloir.
Tout à l'heure, à partir de 20h10 TU.
RFI.